Radio Kapi.
L'UNICEF s'est dit préoccupé par la situation des enfants à la suite des affrontements dans les Rutshuru. Le coordinateur de l'UNICEF dans l'Est condamne cette escalade des violences et appelle les parties en conflit à mettre fin au combat. Affaire Boukang Alonso, la Cour de cassation sur soi a statué sur la cause. Elle décide de saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 164 de la Constitution. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Grand Philippe Liti, le nouveau représentant pays de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Son mandat se focalise sur l'amélioration des services sociaux de base, fragilisés par la pandémie, ainsi que les conflits dans l'est du pays qui constituent des menaces graves pour les enfants. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Au Nord Kivu, au moins 4 enfants ont déjà perdu la vie à la suite du conflit armé qui sévit dans le Rutshuru. L'UNICEF s'est dit très préoccupé par les récentes attaques des civils dans le territoire des Rutshuru, en particulier la situation des enfants. Dans une déclaration radio Kapi ce vendredi à Goma, le coordinateur de l'UNICEF dans l'Est condamne cette escalade des violences et appelle les parties en conflit à mettre fin au combat afin de permettre un accès humanitaire aux zones touchées. Sifa Maguru.
D'après le coordinateur Est de l'UNICEF basé à Goma, sur environ 158 000 personnes déplacées actuellement dans les Rutshuru, la moitié est constituée des enfants de 3 à 17 ans. Parmi eux, près de 41 000 enfants sont privés de l'éducation. Pendant ces temps, plus de 600 enfants sont séparés de leurs parents ou tuteurs depuis fin mars, alors que 29 000 autres n'accèdent pas à leurs écoles occupées par des déplacés dans les zones des réfuges, déplore cette agence onusienne. Jean Métainier, coordinateur de l'UNICEF pour l'Est de la RDC.
Les besoins sont, je dirais, de beaucoup de niveaux, mais le premier, c'est bien entendu une assistance alimentaire que les enfants et la population a besoin. La deuxième chose, c'est un accès aux soins de santé. On est aussi concerné par la multiplication des violences sexuelles qui ont été recensées au cours de ces dernières semaines vis-à-vis de la population déplacée. On a eu au minimum 93 cas qui ont été de viols qui ont été recensés. Et en particulier, beaucoup d'entre elles sont des mineurs.
Goma Sifa Maguru, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, sit-in ce vendredi devant la MONUSCO. Les membres du Forum des femmes leaders des organisations féminines et regroupement des femmes politiques ont déposé leur mémo à la MONUSCO. Dans leur déclaration, elles disent être préoccupées par la résurgence des conflits armés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est notamment dans les territoires de Rutshuru où les rebelles du M23 mènent des attaques contre les FRDC à Bunagana. Tout en dénonçant la passivité de la communauté internationale face à cette résurgence de l'insécurité dans la partie est de la RDC, ces femmes ont aussi recommandé au gouvernement congolais de ne pas dialoguer avec les rebelles du M23. On écoute ici Madame Victorine Mouima, vice-présidente du Forum des femmes leaders du Nord Kivu, dans cet extrait choisi par Bernadine Diamb.
Consciente de notre rôle en tant que mère, donneur de vie, activiste des droits humains, nous dénonçons les faits suivants. La complicité de la MONUSCO et de la communauté internationale face à ce qui se passe chez nous depuis plus de 20 ans. Les messages et déclarations de la MONUSCO sur son incapacité d'appuyer les FRDC sous prétexte de ne pas être en mesure de le faire. Recommandons ce qui suit. Nous demandons au Premier ministre, chef du gouvernement, de ne pas accepter toute négociation avec le mouvement terroriste M23 et ses alliés. Nous exigeons au Rwanda, à l'Ouganda et au Burundi de négocier tout d'abord avec leur mouvement rebelle qui sème la terreur dans la région du Grand Lac. Enfin, nous demandons le départ sans délai de la MONUSCO.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, la Cour de cassation sur soi statuée sur la cause dans l'affaire de détournement présumé de fonds alloués au parc agro-industriel de Boukang Alonso contre les sénateurs Augustin Matata Mponyo et consorts. Elle décide de saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 164 de la Constitution. C'est le prononcé de son arrêt avant dire droit de ce vendredi ici à Kinshasa. Cette décision est consécutive aux exceptions d'incompétence de la Cour de cassation et de l'irrécevabilité soulevée par les partis prévenus, surtout pour le sénateur Auguste Matata Ponyo, en rapport avec son statut d'ancien Premier ministre. Reportage, Jeff Ngoy.
Par cette sursaisance, la Cour de cassation demande à la Cour constitutionnelle des explications claires sur ce que sous-entendent les expressions infractions commises durant l'exercice des fonctions du Premier ministre ou du Président de la République ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. David Christophe Mukendi, Premier Président de la Cour de cassation.
La Cour de cassation, se fondant sur les dispositions des articles 80 de la loi organique relative à sa procédure, elle demande à la Cour constitutionnelle de lui donner la portée exacte de ces deux expressions dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, s'agissant du prévenu Matata, en ce qui concerne le poursuite engagée pour les actes posés dans la période où il exerçait effectivement les fonctions de Premier ministre ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Poursuivi pour détournement présumé des fonds alloués au parc agro-industriel de Bukangalonzo. Le 15 novembre, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente de connaître de cette affaire sur pied des dispositions de l'article 164 qu'elle est encore appelée à interpréter, ce qui ne satisfait pas la défense.
On reste à Kinshasa, parlons de cette série de mesures concernant les transports à moto-taxi. Les propriétaires ont 20 jours pour s'acheter une plaque d'identification. La mesure rendant obligatoire le port du casque par le motard et ses passagers revient aussi à l'ordre du jour. Ceci ressort d'une rencontre jeudi dernier entre le gouverneur Gentil Ngobila et les responsables des associations des transporteurs par moto. Le gouverneur a déploré les mauvaises pratiques de plusieurs d'entre eux sur les routes quinoises. Babel Pongo Massimango.
Le ministre provincial des Transports, Amos Mbokoso, revient sur certains points abordés.
La réunion a tourné sur le comportement des motards. Tout le monde a suivi ce qui s'est passé devant Akwaskash. Très souvent, les Wewa, quand il y a un accident, ils se font justice. Donc, tout ça a échangé avec les Wewa pour les sensibiliser et demander un changement total de leur comportement. L'autorité a donné un moratoire de 20 jours après lesquels aucune moto ne peut circuler dans la ville de Kinshasa sans plaque. Les Wewa et leurs clients doivent porter les casques. Les Wewa sont interdits de suivre les cortèges présidentiels. Les Wewa ne doivent pas se faire justice. Il y a des organes de l'État attitrés pour ce genre de choses. Et puis il y a une délimitation qui a été donnée aux Wewa pour ne pas circuler dans la commune de la Gombe. Et ce sont mesures qu'on va coller sous forme des arrêtés pour que ce soit officiel.
Un des membres de l'association des motocyclistes explique.
Tous les motocyclistes et propriétaires de motos ont jusqu'au 10 août pour se procurer une plaque d'immatriculation. Après le 10, il y aura un recouvrement forcé. Chaque moto doit avoir 3 casques. Mais il y aura aussi une opération d'identification de motocyclistes pour savoir qui l'est réellement.
Autres mesures pour les motos se vendront désormais munies des plaques d'immatriculation.
Notons que le commissariat provincial de la police a lancé un appel à témoins pour retrouver les auteurs de l'incendie d'une Jeep dimanche dernier devant le parc aquatique Aquasplash à Limété. C'était juste après une collision entre ces véhicules et une moto. Autre nouvelle, dans les territoires de Dungu, précisément dans la chefferie de Wando en province du Haut-Touélé, plusieurs facteurs freinent le développement de cette entité coutumière d'une superficie de 27 000 km². C'est notamment l'enclavement de plusieurs localités à cause du mauvais état des routes et le manque des infrastructures de base. Une situation qui maintient les populations dans un état de précarité avancée, selon le chef de la chefferie de Wando. Dans un entretien accordé jeudi dernier à Radio Capi, il plaide auprès des autorités du pays pour une assistance en faveur de ces personnes. Récit de Jean-Claude Loki depuis Dungu.
Wando, l'une des trois chefferies qui composent le territoire de Dungu, fait face à plusieurs défis. Le premier, c'est celui de la dégradation de plusieurs routes de desserte agricole, ce qui ne permet pas aux habitants qui vivent dans des milieux reculés d'écouler leurs produits du champ vers des grands centres commerciaux. Conséquence, ces produits vivriers pourrissent dans la zone, ce qui prive ces paysans de revenus qui pourtant pouvaient leur permettre de se procurer certains biens, explique le constant Wando, chef de cette chefferie. Il affirme que faute d'argent, certains habitants continuent à se couvrir avec des écorces d'arbres, par exemple à Kbanangbara ou encore à Papa. Par ailleurs, plusieurs entités sanitaires ne sont pas accessibles à cause de mauvaises routes, ce qui ne permet pas aux nombreuses formations médicales de s'approvisionner en médicaments. Nous enregistrons des décès simplement parce que les malades n'ont pas accès aux soins de santé de qualité, a déclaré cette autorité coutumière. Dans le secteur de l'éducation, plusieurs écoles fonctionnent sous des abris délabrés où parfois les enfants sont obligés de s'asseoir sur des sièges de fortune à cause de manque de pupitres. Ils demandent aux responsables du pays de voler au secours de ces personnes qui vivent dans des conditions difficiles. De Dungu, Jean-Claude Loki, dit les radios Okapi.
Et puis en plus bref, le ministre de l'EPST annonce le réajustement de la prime de la gratuité à hauteur de 67% pour les 372 900 enseignants des écoles primaires publiques et ce, dès la paye du mois de juillet, sur instruction du chef de l'État. Tony Mwaba l'a annoncé ce vendredi à travers un communiqué dans lequel il indique aussi que c'est pour se conformer aux engagements pris par le gouvernement dans l'addendum au protocole d'accord de Bibois issu de la commission paritaire gouvernement banc syndical de l'EPST signé à Mbuela Lodja Kisantu le 19 novembre 2021. Et puis, le nouveau recteur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC, nommé à la tête de cette université il y a 3 mois, a réagi ce vendredi devant la presse de Kinshasa. Le professeur Kambayi Boatia a répondu aux critiques portées contre sa personne ces derniers jours, notamment celles le présentant comme anarchiste et mauvais gestionnaire. Le détail avec Donama Dimbambaya.
Dans cet échange avec la presse de la capitale, Kambayi Boatia, lâche d'entrée qui ne se reproche de rien, ne fermant la porte à aucune question, même pas les plus embarrassantes, l'ancien ministre et plusieurs fois gestionnaire d'université en RDC explique tranquillement que pour lui, la méfiance et la suspicion font souvent partie des éléments caractéristiques du début d'une relation quand les gens ne se connaissent pas encore bien. Cela pour expliquer pourquoi il y a des allégations de mégestion et des rigidités portées contre lui. Kambayi explique que les frustrations et tensions à l'IFASIC rapportées par les médias, si elles existent, sont l'œuvre pour lui de ceux dont sa rigueur de direction bloque les intérêts. Le nouveau recteur a aussi rappelé qu'il n'est à la tête de l'IFASIC que depuis 100 jours et en 3 mois, il a au contraire apporté quelques réalisations, dont certaines salles et locaux de l'IFASIC réfectionnées, une meilleure traçabilité financière opérée et renforcer l'approvisionnement en eau, surtout dans les sanitaires où il y avait une carence depuis bien longtemps.
Autre nouvelle, région des Grands Lacs, dynamique des conflits et système de sécurité collective. Tel est le titre du nouveau livre porté sur le fonds baptismaux ce vendredi 22 juillet ici à Kinshasa. Selon Néhémie Mouilania, qui en est l'auteur, ce livre est une contribution pour aborder la question de la gouvernance et sécurité en République démocratique du Congo et dans la région. Néhémie Mouilania l'a dit à Paul Matendo.
Vous savez, il faut un minimum de modestie lorsqu'on a été en charge, mais en même temps, il y a l'exigence patriotique qui ne peut pas vous laisser indifférent par rapport à ce qui se passe. Et lorsqu'il s'agit de la répétition de l'histoire, interpellé, n'est-ce pas, par ce dont on est détenteur en termes de, oui, pourquoi pas, solutions qui ont été apportées hier et qui peuvent encore servir aujourd'hui, on ne peut pas se taire. Et donc, il n'y a pas autre chose à voir dans ce qui a été fait qu'un apport, juste une modeste contribution à la gouvernance sécuritaire de notre pays, de la manière peut-être objective d'aborder la problématique sécuritaire qui se pose à notre pays aujourd'hui et à l'ensemble de la région.
Et puis, mesdames et messieurs, suite de notre série de reportages sur la divagation des éléphants, aujourd'hui, notre confrère Jean Gandou s'est penché sur ce qui explique la présence de ces animaux en dehors de leur espace naturel. Pourquoi ne restaient-ils pas dans leur espace approprié? Tentative de réponse dans ce reportage.
À en croire plusieurs sources, dont celle de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, plusieurs raisons expliquent la divagation de ces pachydermes en dehors de leur espace naturel. D'une part, ils quittent les parcs pendant la saison sèche à la recherche de pâturage et de l'eau. Pendant la saison de pluie, très souvent ils abandonnent leur milieu naturel à cause, entre autres, des inondations. Il y a aussi le braconnage dans une moindre mesure. Une autre raison, c'est l'exploitation minière dans les parcs et l'exercice des activités agricoles par les riverains. Ceci se constate surtout dans les parcs Upemba. Ce parc est à cheval entre les territoires de Lubudzi dans le Lualaba, les territoires de Bukama et de Malimbankulu dans le Olomami. Une grande partie de ces parcs se trouve dans le Olomami, plus précisément dans les territoires de Bukama. Il faut aussi signaler que des milliers de personnes ont érigé leurs maisons dans les couloirs qu'empruntent les éléphants qui quittent le parc à la recherche de pâturage. Le cas du village Mbwe dans la chefferie de Kayumba, territoire de Bukama. Et ce village a toujours été victime de la dévastation des champs de la part de ces animaux qui ont déjà tué plusieurs personnes. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
À Tunis, une coalition d'organisations de la société civile a tenté vendredi soir 22 juillet de manifester contre le référendum sur une nouvelle constitution prévue lundi prochain. Appelant au boycott du scrutin, une protestation qui a immédiatement été dispersée par la police à coups de gaz lacrymogène. Les Tunisiens sont appelés à voter par référendum lundi sur une constitution proposée par Kais Saied, où le président arrive au pouvoir après un coup de force et il y a un an, jouira de vastes prérogatives sans devoir rendre des comptes. Et puis les États-Unis ont annoncé ce vendredi une nouvelle tranche d'aide militaire à l'Ukraine à hauteur de 270 millions de dollars américains. Elle comprend notamment 4 nouveaux systèmes d'artillerie de précision HIMAR.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est Grant Philippe Liti, le nouveau représentant pays de l'UNICEF en RDC. De nationalité sud-africaine, Grant Liti a occupé plusieurs fonctions, notamment directeur adjoint des programmes d'urgence de l'UNICEF, coordinateur opérationnel de la réponse mondiale à la pandémie de COVID-19 en 2020, et il a été détaché en tant que coordonnateur humanitaire adjoint de l'ONU pour l'Éthiopie en 2021. Son mandat en RDC se focalise sur l'amélioration des services sociaux de base fragilisés par la pandémie, ainsi que le conflit dans l'est du pays qui constitue des menaces graves pour les enfants. Grant Philippe Liti s'entretient ici avec Patience Ngalula. Suivez.
Grant Liti, bonjour.
Bonjour, Patience.
Vous venez à peine de prendre les fonctions de représentant de pays de l'UNICEF. Qui représente cela pour vous?
Bon, c'est peut-être le 5e ou 6e passage en RDC, en fait. Je suis ravi d'être là. J'assumais pleinement mes fonctions comme représentant cette semaine, après avoir rencontré le ministre des Affaires étrangères pour présenter mes crédentiels.
Et quelles sont vos priorités pendant votre mandat?
Je pense que je peux parler dans un premier temps des mois qui viennent, parce que je pense qu'il y a énormément à découvrir. Au lieu d'arriver déjà avec des priorités préconçues, je pense que c'est important d'accorder un temps pour aller visiter, écouter les communautés, les autorités, les partenaires, pour essayer de bien comprendre. En ce moment, ce qui est déjà clair pour moi, il y a 2 choses qui sont frappantes. Le premier, c'est l'impact, l'affaiblissement des services sociaux de base dû à la pandémie, comme partout dans le monde. Mais je remarque que quelques exemples. Récemment, j'étais au ministère de la Santé publique hier, et on regarde avec beaucoup de préoccupation le taux de vaccination de routine a chuté. Donc ça voudrait dire qu'il y a beaucoup d'enfants que jusqu'à aujourd'hui, ils avaient bénéficié d'aucune vaccination. Qui voudrait dire que, à un moment donné, il y a beaucoup plus de risques des épidémies, des maladies comme le rougeole, méningite, polio, etc. Donc ça, c'est une première chose. Il y a aussi toujours la question de COVID, le fameux COVID. On a tous envie de déjà oublier le COVID, mais c'est pas parti. Et il y a toujours de nombreux de personnes vulnérables qui sont pas vaccinés, mais aussi de manière générale, en termes des autres services de base, il y a un besoin de voir comment rattraper maintenant suite à l'impact de la pandémie. Puis l'autre grand thème, c'est les crises ici. Côté crise, c'est surtout l'est du pays qui est préoccupant et pas juste dans une seule zone. Donc on est tous en ce moment logiquement focalisés autour de recrudescence du M23 et c'est effectivement une situation très préoccupante avec beaucoup de populations déplacées et une situation où ça risque de continuer encore tant qu'on n'a pas trouvé une solution politique. Donc ça, je pense qu'au même temps que travailler sur renforcer les programmes de développement, il faudrait aussi à ce qu'on renforce la réponse à ces crises humanitaires.
Parlons de vous maintenant. Vous êtes à la tête de l'UNICEF. L'UNICEF s'occupe des enfants. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager pour la cause de l'enfant?
En fait, au départ, j'ai commencé de travailler vraiment dans des crises, plutôt des conflits. Donc, dans beaucoup de régions, j'étais surtout dans le conflit plutôt que de développement tout au départ. Mais l'autre chose qui me frappait dans beaucoup de conflits, c'est parmi les plus vulnérables, d'abord, il y a les enfants. Quand on voit le sort des enfants, ça m'a touché vraiment. Plus tard dans ma vie, je suis devenu père de famille. Donc, oui, je pense qu'on doit travailler ensemble pour essayer collectivement de rendre ce monde mieux pour nos enfants.
Grant Liti, représentant de pays de l'UNICEF. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup pour cette opportunité et bon week-end.
Voilà, fin de cette édition mise en onde par Jean-Claude Siala sous la supervision d'Alain Irung et la coordination de Pierrot Elamégie. Merci de nous avoir suivis.